Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour, 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 Agnès Benassi-Kiré.
Bonjour Nicolas Dose.
Sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Neoma Business School. Elle est très chaude bouillante sur l'once d'or, Nathalie. Et Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
En attendant du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. J'imagine que ça turbine sec pour préparer l'édition 2024, Jean-Hervé.
C'est un formidable révélateur de la situation française. Tout est compliqué. Je trouve que tout est beaucoup plus difficile.
Si ça se passait.
Pas... Non, mais c'est la réalité.
Il faut les faire à Berlin, alors.
Voilà. Non, non. Et on va les faire à Aix.
Mais non,
mais il vous a pas échappé qu'il fait plus beau à Aix en juillet qu'à Dunkerque en novembre-décembre.
Donc, oui.
Un petit atout. Je dis juste que c'est un peu plus compliqué que d'habitude et que les successeurs auront du boulot. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur le festival d'Aix. On est dans un dispositif qui est très révélateur des tensions, difficultés, fragmentation de la société française.
Vous allez publier une deuxième version du livre Partage vertueux entre salaire et profit, dont la première version est parue tout récemment. La croissance, ce sont 2/3 de salaire, 1/3 de profit chez Economica. L'idée de cette deuxième édition, en quelques mots, Jean-Hervé ?
On a rajouté un chapitre qui porte sur la politique économique en France. En fait, comment, toujours cette histoire de partage, vieux problème d'économie depuis Ricardo, comment est-ce qu'à la fois on arrive à financer l'investissement, donc il faut des profits, et comment est-ce qu'on fait une demande importante et poussée, stimulée par, en tout cas, le débat lancé par Monsieur Ménégo.
Patron de Michelin, oui. D'ailleurs, vous reprenez dans la partie contrat de travail le terme salaire décent, ce fameux terme qui a été utilisé par le patron de Michelin. Vous parlez de 100 milliards d'investissements annuels en France nécessaires désormais pour préparer l'avenir. Et puis alors, sur la partie investissement, justement, taxer les dividendes au-delà d'un montant considéré comme normal ou taxer les rachats d'actions, on y est. Voilà.
Aucun aspect, et pardon,
je
m'a lancé sur le sujet, évidemment aucun aspect idéologique. J'en ai absolument rien à faire que les gens soient riches, pauvres, etc. Pas le sujet.
Le sujet, c'est qu'on a besoin
d'investir et que tout ce qui en profit ou en épargne et permet à notre pays, et plus globalement, d'ailleurs, on retrouverait à peu près la même chose en Europe, d'investir dans les transitions qui arrivent devant nous et devant l'énorme problème qu'on va avoir en termes de vieillissement de la population, qui est vraiment le problème le plus compliqué et le plus onéreux, c'est le sujet numéro un. Et je vais dire que les rachats d'actions sont évidemment une perte de financement par rapport à ça.
Alors, on va justement en parler, parce que là, moi, je vois quand même des solutions fiscales et pas que des solutions qui consistent à drainer l'épargne. Les rachats d'actions, alors, il faut reconnaître que je commence avec vous, Nathalie Janson. Le montant mondial a été publié il y a 48 heures par Janus Anderson, 1100 milliards de dollars dans le monde. Les rachats d'actions, il y a plein de raisons qui peuvent rationnellement expliquer qu'on utilise ce type d'outil, sauf que les montants sont devenus délirants. Alors, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs qu'on se demande si les rachats d'actions ne doivent pas contribuer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas qu'en France qu'on se pose cette question, mais il n'en demeure pas moins que si vous pensez que une entreprise, lorsqu'elle se demande comment elle va gérer en fait les revenus qu'elle a, et vous commencez en fait à lui dire comment elle doit faire, eh bien c'est le début d'une distorsion. Donc après, on peut ne pas aimer les rachats d'actions. Il n'empêche que c'est une forme, comme vous l'avez dit, qui s'entend. Il peut y avoir des raisons tout à fait normales pour pouvoir procéder à ces rachats d'actions.
Notamment si on verse des actions gratuites pour stériliser une partie du capital.
Tout à fait.
Là, c'est parfaitement cohérent. Mais on n'atteint pas ces montants-là. Voilà.
Mais néanmoins, on n'est pas non plus... Ça ne vous a pas échappé que les marchés financiers ont continué à beaucoup augmenter. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, il y a une valorisation qui ne semble pas s'arrêter. On pensait que les hausses successives de taux d'intérêt allaient arrêter cette hausse permanente. Et en fait, pas du tout. Donc, je pense que ça procède de la même, du même phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a toujours beaucoup de hausses du marché, il va y avoir des entreprises qui vont avoir effectivement des revenus importants, ils vont verser des dividendes importants. Et donc, du coup, cette option de pouvoir racheter des actions est plus fréquemment utilisée. Donc, je pense qu'il faut remettre dans le contexte et surtout, il faut s'interdire de vouloir décider à la place d'une entreprise parce que néanmoins, c'est quand même elle qui est au mieux au fait de savoir comment elle va allouer ses ressources et comment elle va effectivement répartir les revenus qui lui incombent. Et à force, je sais qu'en Europe, on adore ce sujet de savoir mieux que les autres.
La différence aux États-Unis, c'est que ça existe déjà, la taxation. Au passage, ce n'est pas une simple idée. Je te rappelle que c'est une réalité aux États-Unis.
Ce n'est pas le problème que ce soit que les États-Unis prennent des décisions. Je ne suis pas en train de dire que les États-Unis, c'est le modèle. Moi, je vous dis ce que je pense en termes de...
Ce que tu disais en Europe, c'est un goût.
On aime
l'Europe
beaucoup.
L'Europe en parle, les États-Unis l'ont fait.
Peut-être. Alors là, pour une fois, c'est l'inverse. Bravo. Et il n'en demeure pas moins que, de toute façon, si l'Europe est déjà très en pointe au niveau de la réglementation, et ce matin, je lisais l'article qui était sur celui qui était à la tête du fonds norvégien et qui disait qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles il a baissé son exposition à l'Europe en termes d'investissement de portefeuille, c'était pour ces raisons-là. Donc, moi... soit qu'on fasse comme les États-Unis, néanmoins je pense que déjà on est des repoussoirs à investissement, donc c'est peut-être pas le moment qu'on se mette à faire ça.
Les Américains ont mis ça début 2023 en place, mais enfin, c'est assez symbolique quand même aux États-Unis.
Oui, sauf que oui.
Agnès Benassi-Kerry, les rachats d'actions, on n'en parlait absolument pas il y a quelques années parce que c'était des montants genre. Vous mettez, les rémunérations normales du risque, c'était des montants à peu près cohérents, normaux, mais là, c'est très important, ces montants.
Alors, c'est une manière de rémunérer les actionnaires, non pas par des dividendes, mais par des plus-values.
Totalement.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que dans ce domaine-là, on a un empilement de la fiscalité au niveau de l'entreprise, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, et ensuite la fiscalité au niveau des actionnaires. Et on n'arrive pas à trouver la martingale là-dessus. Si les entreprises s'endettent pour racheter leurs propres actions, c'est qu'il reste, malgré les efforts des dernières années, il reste un biais fiscal, une incitation fiscale. On sait que les paiements d'intérêts sur la dette sont partiellement déductibles du bénéfice imposable, alors que les paiements de dividendes ne le sont pas. Et donc, ça crée un biais qui est bien connu, qui a été réduit dans les années passées, par notamment une directive européenne. Mais visiblement, ça ne suffit pas. D'où le débat aujourd'hui, et je suis d'accord que le rachat d'actions est assez inquiétant parce qu'on préférerait avoir des entreprises bien capitalisées et qui investissent.
Qui ont des projets d'investissement. Alors, une entreprise qui s'endette pour maintenir son dividende ou pour acheter ses actions, là, très naturellement, je considère que c'est malsain. Pour avoir quelquefois discuté avec des grands mandataires sociaux qui me disaient, hors caméras et micros, qu'ils n'avaient aucun problème à s'endetter pour maintenir le dividende de l'année précédente, même si les résultats de l'année en cours ne permettaient pas de verser ce dividende, naturellement, on se dit, il y a un truc qui cloche. Maintenant, dans la vie normale, s'il n'y a pas d'endettement en amont, est-ce qu'on est...
Mais là, on parle d'entreprises... c'est très concentré, ces rachats d'actions. Oui. C'est quelques entreprises.
Ah oui, oui. 9 milliards sur les 33 milliards, 9 milliards total, 5 milliards BNP Paribas. Quasiment la moitié à eux deux. Donc, effectivement... Donc, l'idée d'aller chercher un peu d'argent dans ces temps de disette, ça ne vous semble pas complètement incohérent?
C'est l'entreprise fait ses choix de manière rationnelle. Après, c'est aux régulateurs et au gouvernement qui fixe les taux d'imposition de ne pas créer les incitations qui vont mener à cette décision rationnelle au niveau des entreprises.
Jean-Abel Redzi, visiblement, on y va.
On y va. Après, c'est aux politiques de décider. Mais j'ai une approche différente. Je veux dire, la répartition des revenus dans un pays, c'est une affaire qui est autant sociologique qu'autre chose. Il y a une espèce de vision de ce qu'est c'est la réalité. Je rappelle, juste, je propose à tout le monde de relire Max Weber et de voir ce que c'est qu'un capitalisme vertueux, c'est-à-dire qu'un capitalisme dont l'objectif, alors c'est peut-être l'aspect protestant, mais l'idée que c'est d'investir, de créer de la richesse, de créer de l'emploi, c'est ça l'objectif. C'est une équipe qui est très subtile, mais qui est déterminée autant par des variables sociologiques et de fonctionnement des sociétés que par une rationalité économique simple.
Alors, vous lirez Agir Agnès et puis Nathalie juste après. Jean-Hervé met les mots vertueux sociologiques autour de ces questions qu'on a voulu voir de manière plutôt rationnelle depuis le début. Allez-y, Agnès Ménassi.
Non, elle est directement du rachat d'actions au partage de la valeur ajoutée. Je pense qu'il y a des étapes. Elle est du micro au macro. Le partage de la valeur ajoutée en France est très stable sur longue période. C'est une force. C'est vraiment une force. On a toujours des. Et d'ailleurs, récemment, les marges des entreprises avaient augmenté. Elles sont en train de revenir vers le niveau de longue période. Mais il faut quand même rappeler qu'on a eu des bons résultats en termes d'emploi. On va peut-être en parler tout à l'heure ces dernières années. La contrepartie, c'est une productivité qui a faibli en France. La France est le pays d'Europe où il y a eu le plus gros décrochage de la productivité. Si ça ne se traduit pas à un moment donné par les salaires, alors on va avoir un partage de la valeur ajoutée qui va dériver au profit du travail. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de cette poche de rémunération du travail, on puisse réfléchir à la répartition entre les différents travailleurs. Mais je crois qu'il faut... on ne peut pas aller directement d'un cas particulier d'une entreprise...
Agnès, juste ce que je veux dire, c'est qu'une société fonctionne sur des règles qui sont des règles politiques, sociologiques, sur la fiscalité. Si on baisse la fiscalité des entreprises, l'IS, c'est une décision de nature politique. Donc on est dans un domaine qui n'est pas de pure rationalité microéconomique, qui est dans un environnement qu'on choisit. Là-dessus, les uns ont une opinion, d'autres ont une autre opinion. Je trouve que les rachats d'actions, au moment où on a besoin, je le rappelle, d'investir massivement dans un ensemble de domaines qui sont là aussi
de nature... Mais je ne conteste pas ça, c'est simplement le lien qui est fait avec
le raccourci entre rachat d'actions et problématique du partage de la valeur.
Parce que ça revient à des plus-values, donc il y a un lien.
Allez-y, Nathalie Janson, là-dessus. On va avancer.
Juste pour dire que, de toute façon, dans cette course à l'investissement et justement pour pouvoir permettre aux économies de se développer et d'aller dans le futur, je pense que de ce point de vue-là, les États-Unis ne sont pas en reste. Je pense qu'au niveau de l'innovation, ils font leur part et ce n'est pas forcément l'État qui est tout le temps derrière. Donc, il y a quand même aussi un problème de modèle. Je suis tout à fait d'accord, on n'est pas les mêmes, ça c'est clair. Et il y a cette idée qu'aux États-Unis, effectivement, on aime plus le risque, on travaille davantage et c'est tout. C'était encore une des remarques d'ailleurs de ce fameux gérant du fonds souverain norvégien qui disait il y a pas photo quoi, il y a des différences culturelles. Donc, mais on peut pas dire que l'autre modèle qui est peut-être plus socialement, il redistribue pas de façon plus égalitaire, ça c'est clair. Les États-Unis qui a un modèle qui est comme ça, on peut pas dire qu'il aille pas vers l'innovation et la croissance et trouver des solutions pour le futur. Voilà.
Chez Nathalie, il se trouve que ils sont les premiers à avoir taxé les rachats d'actions.
Non mais on va pas faire l'émission là-dessus. Non, ils viennent de le faire en 2023, mais c'est voilà. Anecdotique par rapport à ce qu'ils représentent sur les marchés, le rôle des marchés financiers américains permet justement, on fera sans doute le lien tout à l'heure avec l'Union des marchés et capitaux européens, permet cette formidable investissement vers l'avenir. Voilà, c'est tout.
Bon, les Américains l'ont fait, mais c'est très anecdotique
Sauf que la proposition Biden est de l'augmenter de manière très significative.
Bon. On va déjà voir s'il reste au pouvoir.
Passons.
On le souhaite, ma chère amie.
Demain, Fitch et Moody's se prononcent sur la fameuse note de dette souveraine de la France. Alors, on va pas dire... Il y a globalement deux solutions. Soit il y a une dégradation de note avec une modification de la perspective qui accompagne cette note, ou alors il n'y a qu'une modification de la perspective et la note reste inchangée. On a coutume de dire qu'on est à peu près doté 18/20 et que si on passe à 17/20, ça va pas être la fin du monde. En tout cas, Bruno Le Maire, logiquement, était hier au micro d'Élise Chevrillon. Il se dit serein. Serein avant le verdict de Fitch et Moody's et un mois avant celui de Standard & Poor's. Partagez, Agnès Benassi, la sérénité du ministre de l'économie.
Alors, c'est plutôt la sérénité des marchés financiers qui sont parce que ça c'est pas une surprise, ça fait longtemps qu'on anticipe ces difficultés avec la notation. Je pense qu'il faut enjamber cette échéance de demain et se poser la question à plus long terme, à moyen terme en fait, sur le budget 2025, est-ce que nous sommes capables de faire l'ajustement qui est souhaitable pour rester dans les clous et ramener. Et là, bon, il y a les règles européennes, les nouvelles règles européennes, mais il y a aussi, indépendamment de ça, la nécessité de revenir vers l'équilibre de manière à ce que, lors de la prochaine crise, on puisse de nouveau aider l'économie. Enfin, c'est incontournable. Et donc, est-ce que nous sommes capables de faire cet ajustement l'année prochaine, l'année d'après et encore l'année suivante ? et où est-ce que le système est bloqué, hein, et donc ça concerne l'État, mais également l'administration de sécurité sociale, notamment les retraites, la maladie, l'assurance chômage, mais également, et ça je pense que c'est un peu nouveau dans le débat, et ça va être vraiment le point à mon avis intéressant, les collectivités territoriales, qui facialement sont à l'équilibre courant, puisque c'est obligatoire, oui. Mais en réalité c'est là qu'on a vu les dépenses dériver le plus rapidement grâce à des concours de l'État. Et donc cet équilibre est un peu en trompe-l'œil, parce que c'est grâce au concours de l'État qu'il a pu être maintenu. L'État a transféré des ressources. Alors il y a eu des transferts de compétences, mais ça va bien au-delà. Oui. Hein, l'augmentation des dépenses des collectivités territoriales va bien au-delà des compétences qu'elles ont récupérées.
Le moyen terme, en fait, il s'agit globalement de faire un effort de 20 milliards à peu près tous les ans jusqu'en 2027, hein, si j'en crois le rapport du Haut Conseil des Finances Publiques et ce qui nous attend pour 2025. C'est des choses qu'on n'a jamais su faire.
Alors, on a su faire ponctuellement. Ce qu'on n'a pas su faire, c'est le maintenir pendant plusieurs années. Et il y a une marche en 2025 qu'il va falloir faire importante pour récupérer de la crédibilité.
On a prévu point de déficit en moins, 100 points de base en moins. C'est juste énorme.
Voilà, c'est énorme. Mais c'est un élément important pour la crédibilité. En même temps, il ne faut pas non plus que ça casse la croissance. Et donc, la composition de ce 1% est très importante.
En fait, si je résume ce que vous me dites, bon, l'échéance de demain, ce ne sera pas la fin du monde, mais arrêtons de jouer avec le feu éternellement, parce qu'un jour, ça risque de ne pas se passer bien.
En fait, il y a des non-linéarités, en particulier des investisseurs institutionnels qui, d'un seul coup, vont se mettre à vendre parce qu'ils ont des règles à respecter.
Oui.
Donc on peut les marches sont pas toutes la même hauteur.
C'est important de rappeler que la position des obligations souveraines dans les portefeuilles correspond à une forme de normes de règles prudentielles et que les arbitrages peuvent effectivement avoir lieu. Votre avis sur Fitch, Moody's, ça va nous occuper toute la journée de demain. On va jouer à se faire peur comme en 2012 avec ce triple A où on se disait que c'était Armageddon le lendemain et puis on a bien vu le résultat.
En fait oui, pour réinsister Nathalie là-dessus, Janson. Effectivement le ce serait le Ce qui pend au nez de la France, ce serait éventuellement effectivement de descendre de catégorie et à force de descendre, effectivement, ce serait de ne plus pouvoir être parmi référencés dans les demandes naturelles des institutionnels, en principalement les banques, qui ont effectivement une demande naturelle en fait à la fois pour des raisons de liquidité et pour des raisons de ratio de fonds propres, qui vont se porter sur la dette souveraine française. Donc effectivement, après on peut relativiser puisque tant qu'on est dans des catégories acceptables, et je ne pense pas qu'effectivement on en arrive à ces catégories-là, parce qu'il faudrait vraiment qu'on soit vraiment dégradé pour en arriver là.
Il faut entrer dans la catégorie des B, minimum.
Voilà, exactement. Donc on en est loin.
On en est loin.
Donc pour le moment, en effet, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, le serpent de mer, je pense, qui nous occupe depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir, est-ce qu'un jour on va réussir à avoir autre chose que d'accumuler des déficits? Ce serait bien qu'on se le pose un jour, puisque ça vient quand même sur le rôle de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il fait trop de choses en France. Maintenant, on a toujours repoussé la poussière sous le tapis, parce qu'il n'y a jamais eu d'urgence. Alors bon, pour la petite boutade, je vais pousser jusqu'à dire, on va peut-être envoyer Bruno Le Maire voir Javier Milei pour qu'il fasse dans le budget, puisque là, il a annoncé avec grand éclat qu'il avait un excédent, il avait cumulé des excédents budgétaires.
Oui.
Bon, là, c'est juste pour la petite blague.
On peut aussi prendre la feuille de route de rigueur des Grecs. Je l'ai re-cité récemment.
Tout à fait. Efficace, comme le dirait Jean-Marc Daniel beaucoup mieux que moi, et on n'a qu'à dire à chaque ministère que c'est ce budget pendant 10 ans. Et peut-être qu'effectivement, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il n'a que ce budget, qu'il ne bougera absolument pas, ils vont finir par devenir créatifs. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt, effectivement, passer par cette réforme de l'État qu'on n'a jamais faite. Mais du coup, on se dit, elle ne sera pas faite, puisque Emmanuel Macron aurait pu la faire. Étant donné qu'il n'était pas, candidat à la prochaine, il ne l'a pas fait. Et ça, c'est un grand regret, parce qu'en général, on fait toujours ce type de réflexion, on l'amène lorsqu'on n'a pas d'échéance électorale. Donc, à nouveau, vu le contexte électoral...
J'ai arrêté d'y croire à la réforme de l'État.
Oui, bien sûr.
Le mot efficacité qu'on prononce à peu près 1000 fois par an, j'ai arrêté d'y croire.
Il n'a aucun intérêt.
Je serais ravi d'être surpris, n'est-ce pas?
Positivement.
Alors, moi, je suis...
On va marquer une pause. Vous allez réagir. Mais... Il faut bien avoir en tête ce que disait Agnès, hein. L'effort à venir à moyen terme, c'est du 20 milliards annuel.
Oui, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Agnès, mais on va y venir
sur
à quoi ça sert.
Je vous donne la parole. Je rappelle qu'il y a à peu près entre 22 et 23 niveaux de notes dans les agences. Hein, donc voilà. on est quand même très 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 en haut encore.
On est très en haut.
Voilà. Comme dit toujours Eric Ayer, si on passe de 18/20 à 17/20, on rentrera encore dans les clous des contraintes prudentielles des établissements de crédit. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.